19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble les amis, partout en France. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans les informés durant une heure jusqu'à 20h. Alors au menu ce soir, eh bien, nous allons parler de Joséphine Baker. On reviendra sur cette actualité. Joséphine Baker au Panthéon, quel symbole. Et on en parlera évidemment avec tous nos débatteurs qui seront sur le plateau tout à l'heure. Mais on parlera aussi de Zemmour, Éric Zemmour, candidat. Et maintenant, on fait quoi? Eh bien, on en parlera. Voilà, et puis j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000. Parmi les invités, d'abord, un tout nouveau éditorialiste parmi nous. On lui souhaite la bienvenue. C'est Maître Fabrice Divisio, dans une poignée de secondes. Tout à l'heure, on a réussi à voir le fils de Joséphine Baker, Brian. Il est avec nous et on l'exclut sur l'antenne des informés. Ensuite, nous serons avec le président de SOS Racisme, également comme invité pour nous parler de la candidature d'Éric Zemmour et puis le face-à-face tout à l'heure. C'est parti les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, j'accueille avec grand plaisir, vous le savez, celui qui est connu aujourd'hui et qui sera désormais une signature dans le Quoi de Neuf, non pas à 19h30, mais tous les mercredis à 19h. Il est avocat, il est aussi évidemment grande gueule, il est aussi polémiste parfois, mais il est surtout celui qui veut porter une voix. Il s'appelle Maître Fabrice Divisio, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, mon cher Maître Fabrice Divisio. Désormais, on va vous retrouver, vous êtes le bienvenu, avec votre signature dans le Quoi de Neuf, carte blanche. Eh bien, c'est parti pour votre première, on vous écoute, mon cher Maître Fabrice Divisio.
Alors, pour mon premier billet d'humeur, et alors que le monde s'enfonce dans la crise sanitaire, que les frontières se referment, y compris chez les pays les plus vaccinés, je voudrais oser une provocation.
Allez-y.
Et si tout ce que nous vivons ne témoignait que de l'échec de la foi de l'homme? En effet, dans une époque où la religion doit rester du domaine du privé et où Dieu est moqué ou caricaturé au nom de la liberté, ouais, où les assimilations et les amalgames vont bon train, où tout signe religieux est examiné en long, en large, en travers, pour voir s'il ne porte pas atteinte à l'ordre public auto-institué, pouvait-on raisonnablement imaginer autre chose que la folie que nous vivons? Depuis un an et demi, nous avons choisi de faire confiance à la science. La science nous dit que. La science nous enseigne que.
Oui.
La science parle. En un an et demi, on nous aura appris au nom de la science à nous méfier de l'autre. Hier, de celui qui n'avait pas de masque, aujourd'hui, de celui qui n'a pas de vaccin. L'étranger est devenu, au nom de la science, un danger dont il faut se protéger. Et les États donneurs de leçons en matière d'immigration ont fait, au nom du sanitaire, ce que Marine Le Pen ou d'autres proposent de faire depuis des années, pour d'autres raisons, fermer les frontières. Ouais. Le monde s'est enfoncé dans un nationalisme au nom du scientifiquement correct, et il ne se trouve personne pour s'en offusquer ou s'en indigner. La science, encore elle, nous a commandé en 2020 de laisser les malades chez eux, de ne les soigner qu'à l'agonie. Et encore la science, toujours, nous a commandé de dissimuler le visage de nos enfants. La science, enfin, nous a commandé de ne pas enterrer nos morts dignement et de rester chez soi confinés, de ne croiser les autres qu'à bonne distance. Et les scientifiques nous ont commandé de nous faire vacciner deux fois, puis trois, peut-être quatre, et de faire de la prudence une faute morale inacceptable. Chaque déclaration d'un homme politique est précédée d'un « ainsi parle la science », ce qui n'est pas sans rappeler la parole des prophètes qui jadis commençaient chacune de leurs prophéties par la formule bien connue « oracle du Seigneur ». Mais la différence est que la parole de Dieu a traversé les siècles, là où la parole du scientifique ne vaut au mieux que jusqu'au coucher du soleil, elle est éphémère, incertaine, volatile. La vérité, mon cher Adil, oui, ayant oublié le chemin de la transcendance, de l'immanence, de l'éternel, l'homme semble prisonnier de ses propres chimères, prisonnier des idoles qu'il a déifiées, et dont il refuse de se rendre compte que si elles peuvent être d'une certaine aide, elles ne pourront plus jamais remplacer la foi dans un Dieu unique. Car l'homme religieux sait que le soin aux malades et la consolation sont voulus par Dieu lui-même. Il sait que l'étranger n'est jamais un danger par lui-même. Il sait surtout que science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Oui.
Alors, en conclusion, les scientifiques ont eu les honneurs de cette année et demie. Et si c'était maintenant le tour des religieux, afin de remettre enfin de la divinité, c'est-à-dire de l'humanité, dans ce monde de fous?
Eh, hey, Ouais, Del Popo, ce premier billet d'humeur, je dois reconnaître, eh bien, vous nous plantez le décor avec votre côté corrosif et satirique, mon cher maître Divisio.
Oh bah quand même, il fallait au moins ça.
Il fallait au moins ça. En tout cas, écoutez, on vous retrouve désormais, inscrivez-le bien, tous les mercredis avec la signature et le billet d'humeur de maître Fabrice Divisio. À mercredi prochain, sans faute, dans le coin de neuf. Merci mon cher maître. Et bien désormais, vous allez le retrouver dans les informés tout de suite, sans tarder, 19h05. Et bien, c'est l'invité actu.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec, consacré, vous le savez, celle, évidemment, à qui on a consacré l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. C'était hier. Une cérémonie avec beaucoup d'émotions. Une cérémonie avec, évidemment, une portée symbolique, une valeur de modèle, d'exemple pour les générations à venir, pour les générations tout court. Et c'est avec l'un de ses enfants qui a accepté aujourd'hui d'être notre invité. Il s'appelle Brian Bouillon-Becker. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour, merci d'être avec nous, mon cher Brian. On a échangé brièvement hier, justement, puisqu'on a partagé cette cérémonie, et c'est pour ça que je tenais absolument à ce que vous soyez avec nous dans les informés. Vous m'avez beaucoup touché parce que vous dites que le fait que pour l'éternité, elle repose au Panthéon, vous avez dit que ça symbolise une valeur d'exemple. D'exemple pour qui, Brian ? Vous qui êtes fils de Joséphine Baker.
Écoutez, d'exemple pour tout le monde en France, tout le monde en Europe et même tout le monde entier. Mais avant tout, on pourrait penser surtout pour tout le monde jeune, tout le monde des enfants, car ma mère a toujours pensé que l'éducation était à la base de tout. Et donc avec une éducation, je dirais, valable, il n'y a plus de problème dès l'enfance, il n'y a plus de problème de violence, de rejet, de haine et encore moins de guerre.
Dites-moi, parce que vous avez publié le livre, justement, parce que vous êtes comédien, vous êtes auteur aussi, également écrivain, vous avez écrit un joli livre qui s'appelle « Joséphine Baker, l'universel » aux éditions du Rocher. Et j'invite tous nos auditeurs qui nous écoutent partout en France à aller se le procurer. Il est bien écrit et tout. Et dites-moi, mon cher Brian Bouillon-Becker, justement, quand vous parlez de ces valeurs aujourd'hui, d'exemple, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui quand on voit, évidemment, la forme que prend notre société ?
Eh bien, évidemment, c'est ce que pense d'ailleurs le président Macron. En réalité, c'est que ma mère a été une grande figure du passé d'engagement contre toute forme de racisme et qu'elle redevient actuelle. Car nous avons des problèmes de racisme divers qui peuvent être, par exemple, diverses sortes de communautarisme, diverses sortes d'intégrisme, d'antisémitisme, de sexisme, bien sûr, d'homophobie. Et certains de ces racismes civilisationnels, peuvent mener au terrorisme.
Dites-moi, Brian Bouillon-Becker, justement, je suis ravi que vous soyez avec nous sur l'antenne des informés sur BFM, justement, et vous avez évoqué Emmanuel Macron, le président de la République. Il fait cette déclaration, d'ailleurs, « Ma France, c'est Joséphine ». Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand il dit « Ma France, c'est Joséphine » ?
Écoutez, j'ai ressenti, tout comme, je pense, ma famille, mes proches, et pas mal de monde présent sous la nef, de la fierté, en tout cas en tant que fils de Joséphine Baker, mais aussi, je dirais, de l'émotion, parce que ça veut vraiment dire qu'il cite ma mère en exemple pour les valeurs inscrites sur tous les frontons des écoles, par exemple, de notre pays, c'est-à-dire liberté, égalité, mais surtout fraternité, car ma mère a toujours prôner pour un idéal de fraternité ensemble. Elle disait que c'était possible et non pas utopique, mais voilà, tout part de l'éducation des enfants.
Justement, est-ce que cette France a besoin d'une réconciliation aujourd'hui, selon vous, Brian ?
Oui, cette France a besoin de réconciliation, car nous avons des camps, je dirais, totalement opposés dans notre pays, mais il n'y a pas qu'en France. Hein. En Europe, aux États-Unis et dans le monde, partout, ce genre de problème. Et donc, nous sommes dans un pays divisé, avec des problèmes communautaires, des problèmes religieux, des problèmes aussi de civilisationnels, je dirais. Et ça, ça part du fait que quand on oriente certains enfants dans le rejet de, des autres qui ne sont pas de leur communauté, bah, ça fabrique alors, des futurs mauvais citoyens.
Justement, votre maman, votre mère, Joséphine Baker, elle a adopté 12 enfants qui viennent du quatre coins du globe. Vous-même, vous êtes originaire d'Algérie. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le fait d'être porté au Panthéon, c'est un symbole de la France? Est-ce que pour vous, c'est un énorme jour qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est... À ce moment-là, lorsque vous étiez assis à écouter le président de la République, avec cette portée symbolique de la France, à ce moment, vous vous dites quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, Brian?
Eh bien, écoutez, moi, je suis né en Algérie, hein, et mon autre prénom, c'est Brahim. Mais ma mère le prononçait souvent, comme elle était d'origine américaine, je porte les deux prénoms, elle le prononçait, donc elle prononçait le plus souvent Brian. Mais et ben à ce moment-là, non, moi j'ai ressenti beaucoup de joie et beaucoup de fierté que par rapport à la trajectoire de ma mère et par rapport au fait qu'elle devient enfin une grande figure d'engagement, oui. Car toute sa vie, elle s'est engagée. Donc, elle a été d'abord une artiste universelle, hein, puisqu'elle a voyagé aux quatre coins de la planète. Ensuite, elle a été une femme universelle, puisqu'elle s'est engagée d'abord avec la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, après contre la barbarie nazie, puisqu'elle a été résistante et officielle de l'armée de l'air. Et puis après, aux États-Unis, avec Martin Luther King, elle s'est engagée pour les droits civiques des Noirs américains. Et puis elle a été aussi une maman universelle en adoptant moi-même, évidemment, et tous mes frères et sœurs venant des quatre coins de la planète. C'est pour ça que j'ai titré mon livre
Joséphine Baker, l'universel. Dites-moi, Brian, justement, vous avez fait référence à vos frères et sœurs, ils viennent des quatre coins du globe, quatre coins du monde, le Japon, enfin bref, l'Asie, la France, certains même ceux de confession juive, le Maghreb avec une sœur en Algérie et une sœur au Maroc, c'est ça l'universalisme ?
Ah bah oui, évidemment, quand vous avez, par exemple, 12 personnes qui viennent de pays, des quatre coins de pays très différents, de cultures différentes et de religions différentes, et que vous les élevez ensemble et qu'ils s'entendent, nous entendons, nous sommes unis, nous sommes liés.
Quelle relation vous avez aujourd'hui avec vos frères et sœurs aujourd'hui?
Eh bien, c'est une question qu'on nous pose le plus souvent, c'est celle-là d'abord, en premier, qui d'ailleurs induit consciemment ou pas, est-ce que Joséphine Baker a réussi son pari avec sa fameuse tribu arc-en-ciel,
le nom qu'elle a donné. Je m'apprêtais à vous le dire, Brian.
Eh bien, la tribu arc-en-ciel se porte bien et elle reste toujours très unie, très liée. En plus, il y a maintenant la deuxième et troisième génération. Mais ça, ma mère a pu le voir de son vivant, car quand on faisait des bêtises, eh bien, nous ne nous dénoncions jamais du genre qui a cassé la vitre du bureau avec le ballon de foot. Eh bien, on dénonçait pas le coupable. On était donc punis collectivement, genre privé de sortie, privé d'argent de poche et privé de télé. Mais donc, ça faisait enrager ma mère. Elle disait, ah, mais ils vont me rendre folle, hein, ces enfants. On sait jamais qui est le coupable. Mais je l'ai entendu dire, dans son bureau, la porte était entrouverte. J'ai entendu dire à des amis une fois, oui, en fait, ça m'énerve un peu, mais en fait, je suis très, très heureuse de voir qu'ils sont très solidaires. Je crois que j'ai réussi ma famille, mais
c'est génial.
Ne leur dites pas, ils vont continuer encore à en faire encore plus de bêtises.
Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur avec laquelle vous êtes le plus proche parmi évidemment vos frères et sœurs, Brian?
Oh, on est tous aussi liés les uns avec les autres. Disons que de par nos parcours, j'ai un peu plus de lien encore avec mon frère Jean-Claude.
Jean-Claude, dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de... Parce que je sais, d'ailleurs, tiens, une question que je vous pose, Brian, je sais que vous avez beaucoup milité, vous vous êtes beaucoup battu pour que votre mère soit aussi au Panthéon, hein.
Oui, mais à la base, ça n'est pas la famille ou moi-même qui avons organisé une campagne de pétition en ligne pour l'entrée de ma mère au Panthéon. Ça n'était pas notre rôle. Ça ne pouvait pas être à nous à réclamer ou exiger une panthéonisation. Par contre, suivre un collectif qu'il a organisé, on m'a appelé début avril pendant le week-end de Pâques, et c'était ce collectif pour que j'y rejoigne. Alors là, oui, les rejoindre, les soutenir, je l'ai fait. Et très vite, nous avons eu des résultats, dans le sens qu'au bout d'un mois, nous avions 40 000 signatures, avec pas mal d'artistes, de journalistes et de politiques dedans, et évidemment beaucoup d'anonymes. Et en 5 semaines, une grossesse fulgurante de cette organisation, me conduite d'ailleurs par Laurent Kupferman, car nous sommes reçus un mois et demi après ce coup de fil, en mai, par les conseillers du président et puis par Madame Brigitte Macron, qui nous fait la surprise en plus de nous faire visiter le palais de l'Élysée et de nous annoncer que le président a déjà pris sa décision et qu'elle est favorable, mais que nous devons la tenir secret jusqu'à cette décision secrète, pardon, jusqu'à la fin de l'été.
C'était pas facile, justement. Avec votre livre Joséphine Baker, L'Universel, aux éditions Rocher, un livre extrêmement touchant, je dois le dire, hein, mais aussi qui nous amuse, mais aussi qui nous embarque. Votre mère, avec cette force de caractère qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message, Brian, à cette jeunesse qui vous écoute aujourd'hui et qui parfois, vous savez, se cherche, qui parfois est perdue, qui parfois aussi a du mal à trouver cet espoir sur lequel elle peut s'accrocher aujourd'hui? Parce qu'il faut le dire, on manque d'exemplarité aujourd'hui.
Oui, on manque. Il n'y a plus d'abord beaucoup d'idéaux de nos jours. Donc nous sommes dans des années où peu de gens s'engagent. Il y en a toujours, évidemment, mais beaucoup moins. Si vous n'avez pas beaucoup d'idéal en tête, il est évident que vous n'avez pas de but. Ma mère, c'était le cas. Donc elle dirait probablement aux jeunes, surtout à la jeunesse d'aujourd'hui, écoutez, prenez-vous en main. Si vos parents ne vous ont pas beaucoup aidé, c'est dommage, mais vous êtes jeunes, vous pouvez encore non seulement vous engager pour la paix, la fraternité, mais vous pouvez surtout la vivre. C'est possible, ça n'est pas utopique, il faut croire en l'humanité, c'est possible, et il faut croire en la vie, bien sûr.
Eh bien, merci Brian Bouillon Baker, l'un des fils de Joséphine Baker. J'étais très heureux de vous avoir eu dans Les Informés aujourd'hui. Merci infiniment à vous, vous êtes comédien, vous êtes auteur, aussi écrivain, et vous avez publié le livre qui s'intitule Joséphine Baker, L'Universel, aux éditions du Rocher. Merci, mon cher Brian, et à très vite. Merci, Brian.
Je vous en prie. Au revoir et bonne soirée.
Bonne soirée. À très bientôt, 19h18. Nous allons marquer une page pub. Et on se retrouve tout de suite après, justement, pour continuer de parler de la candidature de Joséphine Baker, mais aussi de la candidature d'Éric Zemmour. Et cette fois-ci, avec un autre invité, il s'agit de Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme. À tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les Informés revient dans un instant. FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Et Les Informés continuent, il est 19h24 justement. J'ouvrirai l'antenne tout à l'heure, 01-53-48-3000. Je sais que beaucoup d'émotions, beaucoup ont été touchés par l'interview du fils donc de Joséphine Baker, Brian Bouillon Baker. Tout de suite, l'invité Actu continue pour parler d'Éric Zemmour.
Les Informés, l'interview.
Et c'est avec Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme. Bonjour mon cher président.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Vous étiez invité, convié par le président de la République Emmanuel Macron hier au Panthéon. Joséphine Baker qui entre désormais évidemment au temple de la République, hein, tout un symbole. Qu'est-ce que ça vous a évidemment, comment vous l'interprétez, monsieur le président, monsieur Dominique Sopo?
J'interprète comme un très beau symbole parce que Joséphine Baker est cette femme née aux États-Unis. Donc une immigrée en France qui a fait de la France sa patrie, noire, qui a subi la ségrégation là-bas, qui a toute sa vie lutté contre le racisme, qui est devenue un des symboles forts de la France pendant les années folles, qui a été résistante au nazisme et à la collaboration, qui était présente aux côtés de Martin Luther King lorsqu'il a prononcé son discours « I have a dream », puisque il faut se souvenir que Joséphine Baker était la seule femme ce jour-là
oui.
à avoir pris la parole, bon, c'était aussi notre époque, et cette femme qui a fondé une famille arc-en-ciel, sa tribu arc-en-ciel, comme elle disait, avec ses enfants adoptés aux quatre coins du monde, et qui avait par ailleurs, puisque vous parliez d'Éric Zemmour, tous les prénoms, des prénoms japonais, des prénoms d'origine maghrébine, des prénoms venus du monde entier finalement. Et c'est aujourd'hui cette femme-là qui est honorée. Eh bien, je trouve que c'est un symbole très fort le jour même où un sinistre pitre raciste comme Éric Zemmour présentait sa candidature apocalyptique à l'élection présidentielle. Donc un grand moment d'émotion, un grand moment de beauté finalement, qui montrait ce que la France peut avoir de meilleur lorsqu'elle sait reconnaître ce qu'ont été les grandes femmes et les grands hommes qui ont fait son histoire.
Justement, vous parlez d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, désormais candidat à la présidentielle, il s'est fait étrier par les différents politiques. Un discours, certains le qualifient de sinistre. Vous dites quoi ? Vous l'avez suivi ? D'ailleurs, je vais vous faire écouter un petit court extrait, si vous me le permettez, juste sur les citations pays, pays, pays. Écoutez, de Monsieur le Président.
Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle, le pays des chevaliers et des gentes dames. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand, le pays de Pascal et de Descartes, le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine, le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages, le pays de Gavroche et de Cosette, le pays des barricades et de Versailles, le pays de Pasteur et de Lavoisier, le pays de Voltaire et de Rousseau, de Clémenceau et des poilus de 14, de Gaulle et de Jean Moulin, le pays de Gabin et de Delon, le Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d'Aznavour, de Brassens et de Barbara, des films de Sautet et de Verneuil. Ce pays à la fois léger et brillant, ce pays à la fois littéraire et scientifique, ce pays tellement intelligent et fantasque, le pays du Concorde et des centrales nucléaires qui a inventé le cinéma et l'automobile, ce pays que vous cherchez partout avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu, ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître.
Qui est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on a quand vous écoutez la tonalité, le son, la couleur, vous voyez qu'est-ce qu'on peut capter, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent, mon cher Dominique Sopo?
Bon, d'abord, on est sur un clip qui ressemble à une sorte de mix d'une vidéo de Groland et d'une émission de l'ORTF des années 50 sur la forme. Sur le fond, ce qu'il y a à comprendre, parce qu'en fait, c'est la vérité de ce personnage. Éric Zemmour ne parle pas de la France, il parle de l'Algérie de ses parents. Mmh. Et en fait, c'est bien ça le problème d'Éric Zemmour. C'est qu'en fait, il fait comme s'il parlait de la France, mais son seul sujet, sa seule obsession, le moteur de sa haine, c'est l'Algérie perdue de ses parents. Et d'ailleurs, c'est marrant quand il parle de la France, vraiment, en fait, il parle de ce que ses parents devaient lui dire de l'Algérie française. Parce que lui ont raconté ses parents ne lui ont pas parlé de la France de Pascal,
donc
de Louis XIV.
Vous êtes en train de nous dire, monsieur le président, que c'est un discours de Pétain.
C'est un discours de quelqu'un dont le moteur de la haine, c'est l'Algérie perdue. Et que, en fait, ce monsieur est un monsieur qui est dans la haine et qui est dans la revanche vis-à-vis des Arabes. C'est ça, Éric Zemmour. Sinon, on ne comprend pas le personnage. Vous vous rendez compte, quand même, le degré de haine que ce personnage exhale, le degré de méchanceté de ce monsieur. Comment peut-on comprendre un tel degré de méchanceté? Comment peut-on comprendre un tel degré de racisme? Je pense que on prête souvent à Éric Zemmour d'être un amoureux de l'histoire de France. Il n'est amoureux de rien, Éric Zemmour.
Mais pourquoi cette volonté avec une musique de la symphonie de Beethoven, des images d'archives, un discours qui fait référence à la France des années 50, avec évidemment parfois aussi référence à des violences et des meutes urbaines, une mise en scène sinistre, et puis ce micro à la De Gaulle. Il est désormais candidat. avec tout ce que je viens de vous citer.
Oui, il est désormais candidat, même si je pense que sa candidature est une candidature qui n'est pas tant un danger électoral parce qu'il va finir par se dégonfler, ça a déjà commencé. Par contre, il y a un vrai danger, c'est que cet individu vise à rendre une légitimité au crime. En fait, ce que fait M. Zemmour, c'est qu'il dit à tout le monde, vous avez des mauvaises passions, vous avez de la tourbe en vous, et bien cette tourbe, cette boue, laissez-la émerger, parce que, en fait, ça va vous faire du bien de laisser cette boue émerger, cette boue du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de la haine que l'on peut avoir envers l'autre.
Donc c'est il ça est obsédé, Dominique Sopo, monsieur le Président, il est obsédé par quoi? Il est obsédé par les origines, il est obsédé par qui précisément? J'ai bien compris que vous nous faites référence évidemment aux Français d'origine maghrébine, aux Français qui sont de confession musulmane, mais est-ce que cela suffit évidemment pour tenir une campagne?
Ah, ça ne suffit absolument pas pour tenir une campagne. Je pense que d'ailleurs la limite du personnage, c'est que c'est un personnage, et d'ailleurs son clip, sa déclaration le montre de façon spectaculaire, c'est un personnage qui est totalement tourné vers le passé. C'est un personnage qui est dans une volonté de réécrire l'histoire de France, d'ailleurs, peut-être à défaut d'être en situation de réécrire l'histoire de l'Algérie. C'est un personnage qui est dans une haine, dans une recherche de la revanche, et que, évidemment, ça ne suffit pas à tenir une campagne.
Que faut-il faire désormais aujourd'hui, monsieur le Président, selon vous, président des Soies Racines?
Ce qu'il faut faire déjà, c'est de qualifier qui est ce personnage. Ce monsieur est un raciste. Il a été condamné comme tel, et je suis stupéfait de constater comment, chez beaucoup de politiques, notamment à droite, chez beaucoup d'éditorialistes, chez beaucoup d'intellectuels dans ce pays, le mot de racisme, lorsqu'il faut parler d'Éric Zemmour, n'est pas prononcé. Donc déjà, ça commencerait par qualifier clairement ce personnage. C'est pas la peine de tourner autour du pot, parce que si Éric Zemmour n'est pas un raciste, je me demande bien ce qu'est la définition d'un personnage raciste. Donc déjà, ce que l'on peut attendre, c'est de la clarté, et c'est d'avoir des médias qui ne font pas le jeu de ce personnage, donnent la parole peut-être à des personnes qui essayent avec difficulté parfois à tricoter du vivre ensemble plutôt qu'à essayer de faire du buzz avec ce personnage absolument immonde dans ses propos, qui est aussi une construction médiatique, parce qu'il ne faut pas oublier que si Éric Zemmour existe, c'est parce que il a été créé par CNews sur les derniers mois, mais que depuis des années ce monsieur a son rond de serviette dans toute une série d'émissions sur différents médias, et que on s'est beaucoup amusé avec lui parce que d'une certaine façon, Éric Zemmour dit tout haut ce que les racistes pensent vraiment. Oui. Éric Zemmour ne s'embarrasse pas, il ne fait pas semblant de parler des étrangers ou de l'immigration lorsqu'il faut parler des Noirs et des Arabes dans ce pays, il le dit clairement. Et donc quelque part, ça fait du bien à toute une série de personnes qui depuis des années, manifestement, sont extrêmement tendues de ne plus pouvoir exprimer de la haine raciste, et Éric Zemmour sert d'exutoire. Et malheureusement, ce type de personnages, on les trouve aussi dans les médias, on les trouve aussi dans la classe politique, on les trouve aussi chez les intellectuels, et à un moment donné, il faudrait quand même faire preuve de clarté. Quand on n'est pas capable, avec clarté et avec force, de dire « Monsieur Zemmour est un raciste », ce qui est un fait, j'allais dire, assez évident quand même au regard de ses propos, c'est qu'il y a un problème qui va bien au-delà de lui, parce que le problème, ça n'est pas seulement Éric Zemmour, c'est le fait que ce personnage puisse avoir une telle audience sur les chaînes et sur l'ensemble des médias, et que dans l'électorat, il y a eu quand même jusqu'à 15 à 20% des gens qui ont dit à un moment donné qu'ils étaient prêts à voter.
Effectivement, donc on va suivre tout cela de très près, effectivement. Merci d'avoir été avec nous, Dominique Sopo, président d'SOS Racisme. L'actualité, de toute façon, nous permettra de revenir de nouveau et d'en parler. Merci, Dominique Sopo. Merci, monsieur le président.
Merci.
19h35, avec beaucoup de retard, nous allons accueillir le Quad 9 avec le docteur Majid Soussine.
Les informés, le Quad 9.
Comme chaque mercredi, j'accueille tout de suite le docteur Majid Soussine. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, Adil.
Comment allez-vous?
Bah, écoutez, pas trop mal. Je ne suis pas encore affecté du variant arrivé d'Afrique du Sud.
Bon,
je me sens encore entier.
Allez, allons-y pour votre billet, carte blanche, votre signature concernant le Quad Neuf. On a précisément 4 minutes avant de lancer la pub, évidemment. On vous écoute, mon cher, et si j'ai bien compris, c'est tout du Z. Allons-y.
Bah écoutez, mon cher Adil, tout s'agit, tout se bouscule cette semaine. À peine né, voilà le dernier variant du SARS-CoV-2 qui renverse Delta et semble marcher en marche pour une conquête du globe. Ce variant au Macron échappera-t-il au vaccin? C'est possible, mais ce n'est pas insurmontable. Les immunologistes trouveront sûrement une parade, ce sera assez aisé pour eux, mais bon, on ne sait pas encore quand elle viendra. Un autre variant croit encore un peu, lui aussi, cette semaine, oui, qu'il peut renverser la table et bousculer l'ordre établi, le fameux désormais variant Z, dont la surface est équipée d'une moustache blanche avec une voix chevrotante genre 1940. Là, je vous sors ma meilleure voix chevrotante, hein, et vous me direz si vous reconnaissez. Sûr de la confiance du peuple entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Discours qui fut prononcé le 17 juin 1940. Hein, oh, un autre discours.
Vous êtes terrible, docteur.
Ah, vous y attendez pas.
J'y attendais pas du tout. Vous êtes comédien, vous êtes terrible.
Eh ben, ce discours amènera en réponse le fameux discours du 18 juin 1940, avait prononcé par un général qui deviendra fameux et dont l'histoire se souvient encore. Ce variant Z espère neutraliser par ses armes couleur sépia et ses références dévoyées les anticorps démocratiques. L'officialisation de son entrée en compétition, ce 30 novembre, ne tient en rien au hasard. D'abord, il fallait effacer l'image désastreuse de sa visite à Marseille, où s'est dévoilée son agressivité et sa vulgarité sous une forme dévastatrice pour lui. Ensuite, c'était aussi un moyen de neutraliser le dernier des débats de la Star Academy des Républicains, où un certain Philippe Juvin concourt en prétendant que la civilisation européenne est supérieure aux autres. Ce qui nous ramène, là aussi, dans le passé, à une certaine France du 19e siècle, oui, où Jules Ferry justifiait la colonisation par la nécessité d'apporter la lumière aux sauvages. Oui. Enfin, c'était la mise en scène de son image de seul vrai opposant du système Macron, de l'anti-France, comme on disait chez les Maurrassiens autrefois. Car hier était la date de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker.
Yes.
Du moins, d'un peu de terre, car son corps repose à Monaco. Mm. Cette descendante d'esclaves noirs, américaine devenue française, résistance qui a commencé dans une revue nègre où on lui mettait autour de la taille des bananes, pendant qu'à la même époque, on mettait dans des eaux des humains en cage pour l'exposition universelle de 1931, qui finit à Monaco, protégée par la princesse Grace, et qui vouait un amour sans borne à la France, et qui avait adopté 12 enfants, qu'elle éleva dans l'amour et la compréhension mutuelle, est un extraordinaire symbole de ce que peut devenir la France. On pourra toujours lui reprocher de ne pas avoir dénoncé le colonialisme et la condition des sujets coloniaux, quand elle s'extasiait sur la liberté qu'avaient les Noirs en France, mais il faut se mettre à sa place, celle qui débarquait des États-Unis où se pratiquait encore la ségrégation.
Oui.
Et cette entrée au Panthéon me rappelle une scène du film Casablanca que vous avez peut-être vu, Adil,
oui,
avec Humphrey Bogart et la magnifique, la superbe Ingrid Bergman.
Exact.
Cette scène où, dans un cabaret, donc au Maroc, des Français en exil pendant la Seconde Guerre mondiale, en réponse aux chants martiaux des Allemands, se lève et chante une Marseillaise à haute voix qui finit par couvrir la voix des fascistes. Et c'est ce qu'on espère pour ces prochaines élections.
Eh bien, merci et bravo pour ce billet d'humeur, mon cher docteur Majid Soussine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Tout à fait, tout à fait.
Belle signature pour ce billet. À très bientôt, mon cher docteur Majid Soussine. Et tout de suite, pub. Et on se retrouve avec Gamal Abina pour commenter, continuer de parler d'Éric Zemmour, de Joséphine Baker, mais également vous aussi, 0153-48-3000. Le standard est ouvert.
Les informés reviennent dans un instant. RFM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
C'est la dernière ligne droite dans les informés, justement 19h42, c'est parti.
19h20. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et pour finir cette dernière ligne droite, c'est Gamal Abina. Bonjour, réalisateur engagé.
Bonjour.
Comment ça va, mon cher Gamal?
Parfaitement.
Parfaitement bien. Eh bien, nous continuons avec vous d'aborder la question d'Éric Zemmour et sa candidature. Il est désormais candidat donc à la présidentielle, à cette élection présidentielle. Est-ce qu'il a fait preuve de professionnalisme, d'amateurisme? Comment vous avez vécu justement cette déclaration qui au départ, il la voulait un peu à la De Gaulle, quoi? Gamal Abina.
Oui, les accents gauliens, c'est surtout dans la façon de, d'être filmé, style années 40, avec son micro. Mais ce que j'ai noté, plusieurs choses. Déjà, je note le choix du compositeur, Ludwig von Beethoven, qui est allemand. C'est toujours amusant de voir qu'il choisit un allemand. Il aurait pu prendre Wagner, il n'a pas osé, parce que c'était le compositeur préféré d'Hitler, ça serait vu. Donc, fan de Beethoven sur la 7e, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est une musique qui a illustré un film d'ailleurs apocalyptique, Prédiction d'Alex Proya, qui est sorti en 2009, si je ne me trompe pas. Ouais. Et c'est un film qui a annoncé la fin de la Terre. Et là, la fin du monde. Et là, quand il nous présente sa mise en scène, avec cette musique qui donne une solennité, une gravité, et une intention de montrer qu'il est capable d'eux, il montre surtout une atmosphère littéralement cataclysmique.
Ah,
on parle de déclinisme, vraiment. C'est un courant de pensée qui est très inscrit aujourd'hui, le déclinisme, dans le sens où la France décline.
Il veut sauver la France quand on écoute le discours.
Lui, c'est le sauveur, c'est l'homme providentiel, ça on l'a déjà entendu à d'autres époques, des gens parler d'hommes providentiels. Mais ce qui se passe, c'est ce déclinisme, qui est un courant de pensée très connu, il est emprunté souvent par les gens d'extrême droite. Et malheureusement, quand on est d'extrême droite et il est d'extrême droite, on utilise les mêmes principes. Chez les nazis, c'est pareil, c'était des peureux, c'était des paniqués, l'avenir est catastrophique, on va vers le mur. Il faut tout réformer, nous sommes les sauveurs. Et on entend toujours parler d'hommes
providentiels. Il dit, j'ai décidé de prendre notre destin en main.
Oui, ça c'est classique chez un populiste. Les populistes, ils donnent toujours le sentiment que c'est eux, si après eux le déluge. Mais en vérité, cette mise en scène qui est assez originale, faut être honnête, on peut pas retirer ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est sombre, c'est triste, le texte est extrêmement violent, extrêmement lourd à digeste. Cette mise en scène rappelle quand même une chose, d'abord, c'est qu'effectivement, l'extrême droite, que son obsession reste toujours la même, elle est orientée vers l'immigration, qu'il n'y a pas de solution concrète, il lève des problèmes, d'une succession de problèmes qui ont existé, qu'il parle d'une France qui était merveilleusement, qui a une réussite extraordinaire, il nous parle du Concorde, qu'il a oublié que le Concorde aussi s'est scratché, donc ça veut dire quelque chose, qu'il explique que la France est super créative, qu'elle fait des choses magnifiques, qu'elle brille à travers le monde, et qu'en même temps, il y a des saboteurs qui l'auraient fait couler. Et que lui est en mesure de la redresser. Bon, déjà, c'est très optimiste de sa part, c'est très prétentieux, c'est faire fi des réalités internationales, à savoir qu'il y a des concurrences très féroces au niveau économique auxquelles il ne pourra pas faire face, ou difficilement, il faut s'adapter, ce qu'il ne sait pas faire, lui, dans la rupture.
Oui.
Et surtout, il a un rêve de grandeur, il a 63 ans, il se veut un De Gaulle qui réconcilierait l'extrême droite avec la droite. Alors, je traduis. De Gaulle, parce qu'il fait souvent référence à De Gaulle.
Eh oui, il faut traduire. Il fait référence à De Gaulle, oui.
Tout le temps, c'est l'obsession. Alors, apparemment, De Gaulle, qui, je rappelle quand même, est mort en 70, a vécu les 30 Glorieuses, était dans une époque où c'était le plein emploi. Il peut pas appliquer les méthodes gaulliennes à une époque d'aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Mais cette référence obsessionnelle, c'est juste pour cacher ses lacunes. Et surtout, il veut réconcilier De Gaulle et Pétain. Alors, De Gaulle étant l'ennemi de Pétain, puisqu'il est, immédiatement, il n'a pas reconnu le pouvoir de Pétain et de Vichy, part en Angleterre, prépare la résistance, on en a parlé tout à l'heure par rapport à Baker, et surtout De Gaulle est un ennemi Pétain déclaré, c'est-à-dire que Pétain le fait condamner à mort par contumace, n'oublions jamais ça, parce qu'il considère qu'il ne suit pas la France, qu'il ne suit pas les ordres de ce grand maréchal Pétain, puisque c'était le sauveur de 14 et c'était le fossoyeur de la France en 40. Et donc quand il fait référence aux deux personnages, il prend deux personnages diamétralement opposés pour les réconcilier. C'est la même méthode que Marine Le Pen qui se réclame de De Gaulle, oubliant par là même que son père était le pire ennemi du général De Gaulle, parce que De Gaulle n'a jamais été d'extrême droite.
Pourquoi tout le monde se réclame comme ça de De Gaulle?
Parce que c'est la figure tutélaire, c'est la France qui brille, c'est la France qui réussit, c'est la France, ouais, qui ne devient pas américaine, parce que c'est De Gaulle qui empêche que l'américanisation de la France soit faite par l'arrivée de la monnaie, le fait de dire nous avons résisté, le fait de dire qu'il y a eu une lumière en France qui a malgré tout, dans cet obscurantisme des 40 millions de personnes qui ont littéralement baissé les bras face aux nazis, ils ont résisté. Et c'est l'idée de se dire que De Gaulle est l'anti-système occidental, c'est-à-dire qu'il était contre la colonisation après avoir lâché l'Algérie difficilement. Il s'est inscrit dans une démarche décoloniale frontale, anti-américaine évidente, anti-OTAN évidente. De Gaulle, c'est aussi le bras tendu vers les Russes, il le fait malgré tout, vers les Chinois. De Gaulle, c'est une autre idée de la France, qui est une idée d'un homme pragmatique qui veut faire en sorte de changer les choses.
Et alors, et Zemmour aujourd'hui, parce que Zemmour est désormais, ça y est, fini le Zemmour journaliste, fini le Zemmour polémiste, c'est Zemmour, place au candidat.
Moi, je note surtout de la part de Monsieur Zemmour, ça fait un an qu'on l'invite. Il avait répondu par la positive, mais il ne tient pas sa parole, évidemment, parce qu'il n'a pas le courage de le faire, je le maintiens. C'est un homme qui manque de courage. Il parle beaucoup de courage, de virilité. C'est quelqu'un qui a été éduqué à l'extrême droite, à l'école soralienne, hein, clairement. C'est deux concurrents qui sont sur le même créneau. Zemmour, il a un problème principal, c'est qu'il se veut le sauveur de la France, prétend que les problèmes viendraient d'une micro-difficulté, à savoir l'immigration, l'islam, qu'il prétend être une sorte de nouvel État en France, ce genre de stupidité qui ne veut rien dire, parce qu'il ne connaît pas la banlieue. Mais surtout, M. Zemmour est un nostalgique d'un passé qui n'existe pas. Et c'est vrai que tout à l'heure, ça a été fait référence par M. Sopo. Je ne suis pas d'accord surtout avec M. Sopo quand il dit par exemple que Zemmour ne représente pas grand-chose et que ce n'est pas un danger en soi. Si, c'est un danger parce qu'il a poussé le curseur à l'extrême droite. Que Zemmour, ce n'est pas lui le danger lui-même. Effectivement, il ne sera pas président, c'est évident, il finira à 5%, c'est une certitude. Et il a senti le déclin. Mais que Zemmour a donné le là sur la droite nationale qui est devenue une droite très très dure. C'est-à-dire que maintenant, les débats ne sont plus. Ben, des gens de gauche, hein, je veux dire, quand on voit ce qui s'est passé avec la sortie hasardeuse surtout d'un homme qui se dit d'origine algérienne, je le rappelle, est-ce qu'il faut prononcer son nom, et qui a quand même sorti qu'il fallait couper le transfert de fonds des travailleurs algériens. Donc ça, c'est une méthode absolument inqualifiable. Eh bien, il a été capable de pousser le débat. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce que représente Zemmour ? Zemmour, c'est un polémiste, d'abord, ce n'est pas un journaliste. Et c'est surtout quelqu'un qui est un idéologue, du moins qui se voudrait idéologue. Ce n'est pas Renaud Camus qui est extrêmement dangereux, parce que Renaud Camus, c'est un intellectuel. Zemmour n'est pas un intellectuel. C'est un idéologue qui est polémiste, mais ce n'est pas un intellectuel. C'est-à-dire qu'il ne conceptualise pas, il ne sait pas faire. C'est normal, c'est pas son métier, il n'a pas été formé à ça. Et donc, M. Zemmour, quand il fait des débats, il fait des débats avec des gens qui lui sont relativement plutôt favorables. La seule un petit peu difficulté qu'il a rencontré, c'était hier à TF1, parce qu'évidemment, Martin Bouygues n'est pas forcément favorable à Zemmour. Donc, son journaliste lui est rentré dedans. Mais là, on voit que quand on le bouscule un tout petit peu, c'est la panique à bord et c'est les insultes qui sortent.
Il a insulté le présentateur de connard.
Ce qui est très grave.
Bon,
on parle même pas de l'élégance du personnage. S'il dit que l'autre est un, je cite, connard, c'est qu'il s'est senti en fragilité. Pourquoi? Parce que son passé est sale. Je veux dire, quand il explique, par exemple, que les femmes, 50% de son électorat ne votera pas pour lui, parce qu'elles ont compris qu'il avait un problème avec les femmes, et ça, c'est pas difficile. C'est deviné. On se rend bien compte que M. Zemmour ne tient pas la route. Quand il parle toujours des banlieues, mais qu'il n'a pas de personne en face de lui pour lui opposer, je parle de personnes sérieuses, parce qu'il est une fois un humoriste, mais il faut être sérieux, on ne met pas un humoriste face à un type qui joue avec les mots.
Vous faites référence à Yassine.
Ouais, oui, c'est Bellatar. Il n'est pas méchant, mais le problème, c'est qu'il n'est pas équipé pour combattre Zemmour. Il lui faut beaucoup plus de bagages intellectuels que ça. Or, Zemmour, il va sur le terrain des idées, il va sur le terrain de l'histoire, très orienté. Elle est très faible, sa connaissance historique, mais toujours orientée sur deux auteurs, ce qui est très amusant d'ailleurs. Et il ne connaît pas la banlieue, il ne connaît pas les musulmans, il ne connaît pas l'islam. Par exemple, quand il parle de Dhimmi, il dit quoi? Il dit que c'est une réduction à l'esclavage, littéralement, si on l'entend parler. Il oublie de dire que le Dhimmi, c'est simplement quelqu'un qui échappe à la guerre, qui est protégé par les musulmans, qui vont verser leur sang pour lui. Ça ne le dit pas. Il préfère vous dire, on paye une dîme, comme si c'était un impôt qui est un impôt insupportable.
Après nous avoir dit tout ça, effectivement, Gamal Abina, mm-hmm. est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va avoir 500 signatures? Est-ce qu'il va se doter, évidemment, de tous les moyens humains, mais également financiers, pour pouvoir faire campagne?
Alors, les moyens financiers, il les a, parce qu'il a des soutiens. Il y a même quelqu'un qui lui a apporté un concours important, un homme d'affaires. Il a déjà le soutien en plus de M. Bolloré qui fait pousser le curseur, parce que Zemmour n'est qu'une façon de faire passer M. Macron à la tête de l'État. Si Zemmour se maintient, et il va se maintenir, il aura ses 500 signatures, parce que il surfe sur quoi, Zemmour? Il surfe sur le désespoir, sur la colère. Il surfe sur des mauvaises, une interprétation de la société qui est mauvaise, sur des colères qui sont mal orientées, et il surfe surtout sur un espoir d'un lendemain qui chante. C'est ça qu'il fait. Donc c'est vraiment un marchand de sable qui fait croire aux gens qu'il a des solutions, et les gens veulent y croire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans la société. L'économie s'est dégradée. Bon, le Covid, on multipliera toutes les sorties. Tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les étrangers, mais il a mélangé les deux habilement, et des maires sont prêts à l'entendre aujourd'hui.
Je voudrais vous entendre parce qu'on va rendre l'antenne dans peu de temps. Mon cher Gamal Abina, Joséphine Baker au Panthéon désormais, ça y est, c'est fait, c'était hier, par le président de la République Emmanuel Macron. Est-ce que c'est cette France rêvée, justement, d'une France réconciliée, après avoir entendu tout ce que vous venez d'esquisser autour d'Éric Zemmour?
Alors, France réconciliée, non, ça veut rien dire, c'est une américaine, pour commencer, soyons un peu sérieux, d'origine espagnole pour partie, d'origine amérindienne. C'est quelqu'un qui a fui un système encore plus sale aux États-Unis, puisque c'est sur le territoire même des Amériques qui avait cette ségrégation, et qui arrive en France et qui est reçu comme tous les jazzmen, tous les grands musiciens, bref, qui arrivent avant l'avant-guerre et puis l'entre-deux-guerres, et qui se rendent compte que la France les reçoit comme de grands artistes et les respecte pour ce qu'ils sont, même si, encore une fois, elle a débuté avec des bananes autour de la ceinture dans une mise en scène un peu ridicule, mais quoi qu'il en soit, elle se rend compte qu'elle reste quand même respectée. Il n'y a pas ce mépris total, je parle bien de mépris total, que les Américains affichent. En revanche, il y a une réalité. C'est-à-dire que quand on m'attend... Bon, M. Macron, je le dis et le répète toujours, il n'est pas raciste. Ça, c'est indiscutable. Preuve en est, il l'a prouvé par cette panthéonisation. C'est pour la mise en panthéon de Mme Baker. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une réalité. Ce n'est pas parce qu'on met un symbole comme ça, c'est un peu comme Zidane en 98, que les choses sont réglées. Ça s'appelle un cache-sexe, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, c'est beau, hein, en termes symboliques, c'est beau, mais ça reste un symbole. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans l'inconscient collectif.
Alors, qu'est-ce qu'elle représente selon vous, effectivement? Parce qu'on connaît ses combats, la lutte contre le racisme, la résistante, l'artiste, bref, elle est portée, comme le disait le fils tout à l'heure, Brian, hein, évidemment, par beaucoup beaucoup de valeur.
C'est une idéaliste qui a raison de y croire parce qu'elle vient d'un pays extrêmement violent et elle ne voit pas la colonisation en France. Elle voit l'arrivée de Noirs américains comme étant des gens respectables. Donc c'est une idéaliste qui voit la France telle qu'un pays merveilleux pour les Américains, qui le voient vraiment comme ça, c'est indiscutable. Parce qu'il ne voit pas l'autre versant africain. Mais c'est quelqu'un aussi qui était une artiste, c'est quelqu'un qui était convaincu, c'était quelqu'un qui était généreux, la preuve, avoir autant adopté l'enfance en dit long. C'est quelqu'un qui a un idéal humain et qui est une humaniste pure et dure, c'est vraiment le produit humaniste. Et son prénom Joséphine, qui ferait référence à la femme de Napoléon, on pourrait dire ça, est symbolique par rapport à ça. Mais ça reste une femme qui, toute sa vie, aura combattu pour un idéal auquel elle a cru. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que la symbolique est forte. Mais
elle a eu raison.
Oui, elle a eu raison. Quand on lutte contre les nazis, on a raison. Quand on est antiraciste, on a raison. Après, malheureusement, bah, évidemment, quand on vieillit, on est un peu fatigué. Mais quoi qu'il en soit, ce qui a été extraordinaire, j'ai envie de dire, c'est pas tellement le fait qu'elle soit battue ici en France, parce que c'était normal. C'est le terrain qu'il a accueilli. C'est qu'elle soit retournée aux États-Unis pour les droits civiques. Ça, c'est extraordinaire. Parce que là, vous alliez sur un terrain extrêmement dangereux qui a assassiné quand même la plupart des leaders qui ont lutté contre le racisme. Je parle de Malcolm X, je parle de Martin Luther King et d'autres. Je parle des Black Panthers qui ont été assassinés aussi.
Louis Farrakhan.
Louis Farrakhan qui est toujours présent. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là existent. Mais quand elle retourne aux États-Unis, elle retourne sur un terrain dangereux. Et je fais référence à Nina Simone, par exemple, qui n'a pas pu y retourner quasiment pour les mêmes raisons. Donc, de ce point de vue-là, c'est une vraie réussite. Il faut respecter la symbolique du personnage, qui était quelqu'un de vraiment éminemment convaincu de son combat. Et c'est pour cela que je considère que cette femme-là était brillante.
Eh bien, merci, Kamal Abina, réalisateur engagé. Excellent, effectivement. Hein, on a envie de rester avec vous pendant des heures pour vous voir palabrer. C'est vrai, palabré, c'est pas mal.
Oui, il a palabre, quoi. Ouais. C'est ça qu'il vient de dire.
Allez, 20h21h, c'est Time Sport avec justement Bilal Nedmat. Bonsoir, mon cher Bilal, comment ça va?
Bonsoir, ça va très très bien, Adil.
Quel est le menu de ce soir nous emporte? C'est un bon menu, là, ça va? Entrée, plat, dessert.
Très costaud, il y a tout. Du hors d'œuvre, il y a tout.
Allons-y.
Tout ce que tu veux. Il y a Jalal El Graoui avec Anis Mebarek qui sont de la partie dans cette émission pour parler justement du MTGP de ce samedi 5 décembre. On va parler, excellent, on va revenir sur la situation avec ce Ballon d'Or 2021 qui fait tant parler. Le parc attend le nouveau Ballon d'Or avec Léo Messi dans son entre Sergio Ramos. On va revenir un peu sur cet épisode ridicule ou peut-être trop prudent pour le staff du Paris Saint-Germain et aussi le football allemand qui réagit depuis et ne digère pas le sacre de Léo Messi sur ce Ballon d'Or.
Ah bon ? Les Allemands,
avec Robert Lewandowski, ouais, ça passe pas.
Et bien ce beau menu, justement, c'est de 20h à 21h avec Bilal Nedmat. À tout de suite, dans une poignée de minutes. Merci à la réalisation, à Yanis. On ne lâche rien, vous le savez plus que jamais. À demain, avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.